France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Quand les tracteurs battent la campagne, histoire d'une mécanisation, quelle fierté de posséder de belles et grosses machines sur une exploitation agricole. Cela est d'ailleurs un impératif, ne serait-ce que pour survivre face à la concurrence acharnée d'autres qui disposent de machines encore plus grosses. Et puis, cette mécanisation assure la prospérité du pays, elle assure son indépendance alimentaire, mais pour quel coût social et environnemental? Bien sûr, pas question de rejeter la mécanisation, il faut simplement réfléchir à ses conséquences.
À Guéret dimanche, jour de joie car l'on fêtait M. Guillon de Naya, lauréat du concours RTF de la semaine de l'agriculture, qui a reçu des mains de M. Duché la clé de ce magnifique tracteur. Contact, ça tourne, on est parti.
France Culture.
Et c'est en ce bel équipage que M. Guillon a regagné sa ferme. Et nous l'avons suivi avec plaisir sur ce qui est pour lui le chemin du bonheur.
Le cours de l'histoire.
Le chemin du bonheur, c'est le lauréat du concours agricole Midi-Atlantique. Nous étions en 1964 avec aujourd'hui cette réflexion sur les tracteurs qui battent la campagne. Bonjour Céline Pessis.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire des sciences et de l'environnement à Agro Paris Tech. Vous avez co-dirigé en tout cas l'ouvrage « Une autre histoire des Trente Glorieuses ». Bonjour Véronique Lucas.
Bonjour.
Vous êtes sociologue rurale à l'INRAE, enfin l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous avez participé à l'ouvrage « Comment les machines ont pris la terre ?» Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ces machines ont-elles pu prendre la terre? Et Christophe Bonneuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche en histoire des sciences et en histoire environnementale au CNRS. Vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales. Comment les machines ont pris la terre? Juste pour donner un peu de profondeur historique, Christophe Bonneuil, on peut rappeler que la mécanisation, c'est ancien. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de moteur pour qu'il y ait une mécanisation. Il y avait des systèmes plus anciens par le passé.
Oui, bon, la mécanisation, faut distinguer mécanisation et motorisation. Donc la mécanisation peut très bien se faire avec un moteur animal, une traction animale, des bœufs, des chevaux. Donc on a des moissons, des récoltes qui se faisaient de façon mécanisée à traction animale. Et puis au 19e siècle, on utilise la machine à vapeur pour le battage. Et donc on a un début de motorisation de certaines activités agricoles d'ailleurs sont l'objet de luttes sociales puisque ça évite d'utiliser de la main-d'œuvre et il va y avoir des contestations des ouvriers agricoles qui vont casser les machines. C'est tout le travail de François Jarige sur le ludisme en France au 19e siècle.
Oui, l'historien François Jarige, avec ce mouvement qu'a étudié François Jarige sur la destruction des machines, ces dévoreuses de bras, celles qui détruisent tout ça, Céline Pessis. C'est important, hein, quand nous réfléchissons à la mécanisation, au tracteur, nous nous projetons dans un univers avec des moissonneuses-batteuses, des grosses machines dans les champs, mais il faut prendre un peu de recul pour bien saisir ce que c'est, hein. Mécanisation ancienne, force animale remplacée ensuite par moteur.
On se projette tout de suite dans un imaginaire, comme vous avez dit, de l'innovation, mais on a aussi la persistance de pratiques plus environnementales ordinaires, comme l'a montré François Jarige autour de la persistance des manèges à chevaux, ou comme on a travaillé sur la persistance aussi de la culture attelée et de l'attachement à cette forme de travail qui persiste en partie au-delà de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que c'est très important de dire, et c'est ce travail qui est porté par les historiens, les historiennes de l'histoire rurale, de l'histoire environnementale, les animaux ne disparaissent pas parce qu'il y aurait des machines qui viendraient ici s'imposer. La mécanisation ou la motorisation, nous pouvons la situer à quel moment de notre histoire? Donc il faut attendre la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, qu'on voit des moteurs apparaître?
Il y a des moteurs dans les moulins, mais le mouvement est vraiment massif après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il y a 45 000 tracteurs en France en 1945 et vous en avez plus d'un million en 1960. Donc le mouvement est extrêmement rapide en quelques années.
Oui, parce qu'il faut se remettre au travail très rapidement après la guerre.
La coopération agricole française apporte sa pierre à l'édifice que fonctionnaires, techniciens et producteurs agricoles de tout pays entendent élever avec le seul désir de servir. Après la guerre, l'agriculteur français, avec peu de moyens, s'est remis avec acharnement au travail. Et la coopération agricole, stoppée comme les autres branches d'activité de la nation dans son développement, a repris son ascension. Depuis fin 1944, de grandes organisations nationales de coopératives se sont formées et ont inclus dans leur programme général un programme d'action technique et économique qui constitue de fait la participation de la coopération à l'effort entrepris par chacun pour le relèvement du pays.
C'était Monsieur Bouchard de la coopération agricole française. Nous étions en 1949. Ce contexte est important sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Christophe Bonneuil, dans « Comment les machines ont pris la terre », vous avez livré un texte sur la motorisation et la pétrolisation de l'agriculture française 1944-1973, une histoire désorientée. C'est intéressant, se désorienter, parce que nous venons d'entendre quelqu'un de la coopération agricole française. Alors il y a quand même une orientation politique dans cette volonté de moderniser, comme on disait alors, en tout cas de mécaniser l'agriculture.
Oui, alors désorienter, ça consiste à penser en histoire que les choses auraient pu se passer différemment, qu'il n'y avait pas de nécessité, qu'il n'y a pas une seule rationalité économique. Et par exemple, si on se situe justement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un modèle de motorisation, il y a plusieurs projets qui sont à la fois des projets techniques et des projets politiques et idéologiques. Pour résumer, on pourrait en citer trois. Le premier, c'est le modèle allemand et vichyste. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la modernité agronomique allemande a beaucoup impressionné les Français. Il y a quand même une défaite devant l'aviation et les chars allemands. L'agriculture allemande est plus performante que l'agriculture française. Et aussi bien des résistants que des collaborateurs sont extrêmement impressionnés par le modèle allemand. Et donc c'est une sorte de choc de modernisation qui est provoqué par l'occupation. Notamment, il y a 170 000 hectares, c'est plus de 10 000 fermes qui sont expropriées dans la zone interdite au nord-est de la France, pour créer des grandes exploitations modernes gérées par des directeurs d'exploitation allemands. Donc on a un remembrement extrêmement brutal qui se fait à ce moment-là sous l'occupation. L'industrie du tracteur allemande, la marque Lanz par exemple, est extrêmement réputée. Et un certain nombre d'agriculteurs français qui s'équipent après la Deuxième Guerre mondiale achètent des tracteurs Lanz. Donc ça, c'est un premier modèle qui est hérité du choc de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. Ensuite, vous avez le modèle qui est le plus connu, le modèle américain, le plan Marshall, le petit tracteur importé, etc. Mais entre les deux, il y a un modèle français d'une industrie nationale du tracteur en reconvertissant les industries de l'aviation. La Snecma est nationalisée par le gouvernement provisoire de la République. Renault est nationalisée puisqu'ils avaient collaboré. Le ministre de l'Industrie, c'est un communiste. Et on va avoir tout un projet de construction de champions français reconverti vers le machinisme agricole, avec un projet souvent d'un tracteur un peu gros, avec des chenilles, qui est censé fonctionner sur des grosses exploitations agricoles en forçant les agriculteurs à se regrouper sur un modèle soft cause pour les communistes, mais plutôt cold cause pour le reste du gouvernement provisoire. Et on a vraiment un affrontement entre ce modèle du gros tracteur issu de l'industrie nationale et du petit tracteur américain qui va finalement s'imposer dans les années 50.
Oui, parce que ici nous parlons de mécanisation, donc de machines, et nous parlons d'organisation aussi. Véronique Lucas, vous avez, dans Comment les machines ont pris la terre, travaillé sur une particularité française, les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole. Alors déjà, particularité française, ces CUMA, elles s'organisent de quelle manière ?
Donc, en fait, ce sont des coopératives qui permettent l'achat en commun de matériel et ensuite leur usage partagé, ainsi que des organisations de travail qui vont permettre qu'on ne se retrouve pas en concurrence au moment d'utiliser le matériel. Et donc, c'est effectivement une particularité française parce que il n'y a qu'en France qu'on trouve cette ampleur de développement de ce type de mouvement coopératif. Il y a eu d'autres tentatives dans d'autres pays qui n'ont pas marché en Europe et quelques exportations hors Europe, mais sans atteindre l'ampleur Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 cumas qui rejoignent la moitié des agriculteurs, des exploitations agricoles en France. Et c'est vraiment spécifique à la France.
Ces cumas coopératives d'utilisation de matériel agricole naissent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale également ?
Elles naissent effectivement en octobre 1945, donc quasiment 80 ans, puisque le ministre de l'Agriculture de l'époque, lui, est issu de cette histoire de coopération agricole. On entendait tout à l'heure Monsieur Bouchard parlait en 1949 de renouveau de l'action de coopération agricole autour de la machine. Mais en fait, c'est une vieille histoire. Et en fait, même avant la mécanisation, les outils agricoles faisaient l'objet d'organisations, de gestion collective dans les villages. On faisait construire son outil par le forgeron, qui d'ailleurs construisait un outil adapté à la personne, à sa taille, à sa force physique, suivant si c'était une femme ou un homme. Et en fait, quand sont arrivées particulièrement les batteuses, qui a été la machine la plus répandue d'abord, on a vu du coup de l'organisation collective soit s'adapter ou bien... On a adapté les machines à l'organisation collective déjà existante, donc les batteuses. Donc du coup, ça fait référence à cette opération de battage, qui était une opération réellement collective, parce qu'il fallait, sur un temps réduit, au moment où la météo y était favorable, exécuter une suite d'opérations de la fauche de l'épi au battage du grain. Et donc, il y avait déjà de l'organisation collective pour réunir un certain nombre de personnes pour cette opération. Et donc, la mécanisation, l'arrivée de la batteuse a fait que, des fois, on n'a pas voulu remettre en cause cette organisation existante qui jouait d'autres rôles aussi que simplement d'organiser le travail au commun pour les battages. Par exemple, on appelle ça des circonscriptions d'entraide, ces groupes de fermes qu'il y avait, donc qui étaient ajustés par rapport à cette opération. Quand la batteuse est arrivée, on a choisi des types de batteuses qui n'allaient pas amener à déstructurer l'organisation sociale existante parce que, en Bretagne, dans une zone d'habitat dispersé, par exemple, elle avait aussi une fonction sociale importante de festivité. Chaque fin de moisson s'accompagnait de fêtes où on chantait, on dansait, on mangeait et on buvait bien. Et donc, on voit bien que ça jouait un rôle important pour la jeunesse aussi. C'était là où les arrangements matrimoniaux pouvaient prendre place aussi dans ces moments-là. Et donc, en fait, avec un attachement très fort, des noms aussi, dans la partie bretonnante, on appelait ça le cambert. Et dans la langue bretonne, il y a kenobert qui veut dire coopération. Dans la partie plutôt orientale de la Bretagne, où c'est une langue d'oeil qui était historiquement parlée le gallo, on va trouver les mots de soit, souhaite, souhaitons, dont la racine latine est la même que notre mot français de société. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, le sens et l'attachement du couple qu'il peut avoir à ces organisations. Et donc du coup, l'arrivée de la mécanisation s'est coulée aussi dans cette organisation. Et Tanguy Préjean, il est un héritier de ça, c'est un ancien paysan breton et qui du coup, dès 1928, a créé une coopérative de battage avec 17 exploitations de son petit village pour acheter une batteuse. Et donc, c'est avec cette expérience qu'il crée le statut juridique des cumas le 12 octobre 1945.
Avec Tanguy Préjean, nous avons une grande figure de cette histoire de l'agriculture. Véronique Lucas, il faut rappeler aussi que ces machines sont mises en commun parce qu'elles correspondent à des utilisations sur des temps très courts. Une moissonneuse-batteuse, tout le monde en a besoin au même moment. Au moment de labourer, on a besoin tous au même moment des mêmes outils. Et au lieu que chaque exploitation ait sa propre moissonneuse-batteuse, ce qui serait impossible, c'est juste presque une logique d'organisation. Mais ce que j'entends ici, c'est que l'organisation sociale préexistait à l'arrivée de ces nouvelles machines.
Oui, et donc en fait, on avait déjà 3000 sociétés, coopératives, associations, syndicats de battage en 1940. Et en fait, on va voir qu'une bonne partie de ces organisations vont se convertir en CUMA à partir de la fin 1945, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux, qui sont accordés aux CUMA, et donc qui va rendre plus intéressant ce statut juridique.
Et avec... dans le gouvernement provisoire de la République française, donc qui est mis en place dès 1944, un ministre de l'Agriculture, c'est Monsieur Tanguy Préjean.
Il faut réduire, il faut stopper cette hémorragie provoquée par un déficit sans cesse croissant. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut faire des économies substantielles. Et nous en faisons sur tous les postes civils et militaires. Sur les postes militaires, je puis vous citer un chiffre. si on exclut le premier trimestre de l'année 1946, à partir du 1er avril, les dépenses militaires qui atteignaient environ 16 milliards par mois seront réduites à 8 milliards par mois. Et dans ces crédits d'ailleurs, il y aura quelques crédits de reconversion, c'est-à-dire de crédits qui permettront d'utiliser des usines qui jusque-là travaillaient pour les armements, pour des constructions correspondant aux besoins de la France dans le domaine de la production industrielle ou agricole. Vous avez d'ailleurs un exemple à Limoges, où nous allons maintenant faire des tracteurs pour l'agriculture française.
Christophe Bonneuil, ça vous fait rigoler quand François Tanguy Prigent, en 1946, dit « Attention, il faut contrôler les dépenses ». Non mais c'est vrai, c'est ce discours que l'on retrouve à travers le temps, avec l'évocation quand même de cette période, hein, de la sortie de la guerre, des difficultés à surmonter, et puis peu à peu, les difficultés sont surmontées. Mais ce qui est évoqué là, c'est aussi une des limites, Céline Pessis, de la mécanisation. C'est ça coûte cher. Il y a un risque de déficit. Ça, c'est un souci aussi pour l'État. Hein. Je parle et je ne parle pas ici pour les collectivités. C'est que l'État s'inquiète du prix de la mécanisation.
Alors, l'État s'inquiète du coût de la mécanisation, mais va quand même en faire un choix de priorité nationale très important. Et ceux qui vont aussi s'inquiéter très rapidement du coût de la mécanisation, c'est les agriculteurs et les agricultrices qui vont rentrer avec les tracteurs dans un nouveau cycle d'équipement, de crédit, d'investissement. Donc, on a la généralisation d'un nouveau netos paysan qui était plutôt fondé sur la prudence et qui, là, va investir et réinvestir d'une année sur l'autre de plus en plus.
Oui, parce que là aussi, ça change vraiment ce que vous dites, la manière de concevoir tout simplement la vie et l'avenir. Pour des gens qui imaginaient, et c'était souvent le cas, vivre en autarcie, c'était une possibilité, même si on sait bien que les agriculteurs étaient toujours en contact et toujours en échange. Mais là, d'un seul coup, le fonctionnement même d'une exploitation change.
Tout à fait, et c'est une des fonctions sociales qui est assignée à la motorisation, puisqu'il y a une claire conscience de la non-rentabilité des tracteurs au début des années 50. Les économistes ruraux le reconnaissent, mais l'intérêt des tracteurs, c'est aussi qu'on va faire basculer les agriculteurs dans un nouveau monde, qu'on va vraiment les insérer dans l'économie nationale, qui vont devenir des consommateurs aussi pour l'amont et l'aval des industries de l'agriculture. Mais il y a aussi une contestation, des contestations diffuses de cette motorisation et de la forme qu'elle prend à ce moment-là. Et on a d'autres modèles socio-techniques qui sont prônés, qui auraient permis un endettement bien moindre, un exode rural plus limité, parce que c'est aussi une des critiques fortes. Et on a, par exemple, la promotion d'un autre modèle de transition qui aurait été plus douce, qui aurait respecté une forme de complémentarité entre traction animale et traction motorisée. Et ça, on a toute une coalition d'acteurs qui se constitue fin des années 40, début des années 50 pour porter ce modèle. Donc on a les constructeurs de machines agricoles qui sont en fait assez peu convertis à la motorisation dans l'immédiat après-guerre, qui étaient très disséminés sur le territoire, nombreux et qui promouvaient un machinisme plus adapté à la diversité locale des cultures. On a aussi des spécialistes du machinisme agricole, comme Tony Ballu, qui est professeur à l'Institut National Agronomique, et toute la filière du cheval de trait, qui tente de faire valoir la rationalité persistante de la culture attelée dans cette après-Seconde Guerre mondiale. Donc, à la fois avec un souci économique d'éviter cet endettement, et un souci biologique de respecter les cycles naturels de fertilité au sein des fermes.
Ce que vous venez de dire, c'est que déjà dès les années 1950, il y a des études qui montrent que pour une petite exploitation, acheter un tracteur, ce n'est pas rentable, il ne pourra jamais le rembourser. C'est un peu comme ça que ça peut être envisagé ?
Tout à fait, ou en tout cas on a des études qui montrent que c'est plus rentable de conserver des animaux dans tout un tas de situations, qu'on peut avoir un machinisme plus polyvalent qui permet justement cette complémentarité entre traction animale et traction motorisée, qu'on peut aussi équiper de petits moteurs un certain nombre d'outils, donc qu'il y aurait eu d'autres formes de motorisation alors qu'on a fait les choix d'une motorisation très rapide, brutale et totale. Donc, où on va inciter les agriculteurs à se séparer de leurs animaux de trait.
Alors que M. Follo, lui, il a gardé son cheval.
Monsieur Follo, vous descendez de votre exploitation du Mollard. Ça vous fait combien de kilomètres pour venir jusqu'à Beaujeu?
3 kilomètres environ.
Ça fait longtemps que vous descendez comme ça par...
Il y a au moins une trentaine d'années.
C'est un cheval qui a une quinzaine d'années que vous avez là?
Oui, à peu près, oui.
Vous l'utilisez pour quel besoin, ce cheval?
Tous les besoins de la culture, quoi, la vigne, les terres, et pour faire mes commissions en ville, à Beaujeu.
Et pourquoi utilisez-vous le cheval encore dans la vigne? Parce qu'au fond, il y a le tracteur.
Mais il faut les deux ici, c'est montagneux. Où le tracteur ne peut pas passer, le cheval passe.
Que pensent les gens de Beaujeu lorsqu'ils vous
voient? Ah, ils disent que je suis antique, je suis à part de beaucoup de jeunes.
Voilà, Beaujeu, hein, nous sommes dans le Rhône. Enfin, Armand Follo, là, à 75 ans, nous étions en 1967. Et les autres, ils disent qu'il est antique parce qu'il a un cheval, mais ils trouvent ça beaucoup plus pratique. Christophe Bonneuil, c'est pas du tout un jugement a posteriori porté par les historiennes, les historiens sur ce mouvement de mécanisation, en disant, bah non, des choix ont été mal faits. C'est pas comme ça qu'il faut le penser. C'est ce que vous disiez, une histoire désorientée pour regarder ces autres voies qui existaient au même moment, pour dire, mais attention, c'est pas exactement comme ça qu'il faut orienter la mécanisation, parce que cette mécanisation portée par l'État principalement peut être piégeuse. Là, on l'entend, c'est quelqu'un qui connaît bien son terroir, et il sait qu'avec le cheval, c'est beaucoup plus simple. Mais ça ne va pas, parce qu'il est antique.
Oui, mais il y a tout un courant de l'histoire des techniques qui dit, depuis une quinzaine d'années, il faut arrêter de ne regarder que les innovations. Il faut regarder les usages et la persistance des techniques. Dans une même époque, vous pouvez avoir des techniques inventées à des âges très différents. Et donc, le cheval peut très bien coexister dans certains territoires, avec certaines pentes, sur certaines cultures, avec le tracteur dernier cri. Et donc, il faut arrêter d'avoir une vision comme ça, étapie sur telle technique, puis telle autre, puis telle autre. Ça, c'est une vision centrée sur l'innovation, les innovations. Si on regarde les pratiques et les usages, on a un regard complètement différent.
Et puis, ces discours existaient déjà, Céline Pessis, par le passé. On entend bien ici que même... Et je parle de Monsieur Follo parce que lui, il a son cheval et il connaît bien son terroir. Mais il y a des gens qui pensent aussi la mécanisation et qui en voient très tôt les limites.
Bah, tout à fait. Mais en même temps que s'invente une rhétorique moderniste, en fait, on requalifie aussi les usages et les pratiques comme étant archaïques. Et donc, on disqualifie tout un tas de pratiques qu'avait leur rationalité, en particulier d'un point de vue environnemental, parce qu'avec la motorisation, il y a aussi les limites qui sont pointées en termes de dégradation des sols. Et ça, dès la fin des années 40 et le début des années 50, donc au moment où se généralisent les tracteurs, il y a de très nombreuses alertes sur l'érosion des sols qu'on craint.
Alors, ça apparaît déjà très tôt, hein.
Ça, c'est des choses qui apparaissent effectivement très tôt, qui sont, par exemple, à l'ordre du jour des chambres d'agriculture, lorsqu'elles se reconstituent dès 1949. Donc, l'association permanente des chambres d'agriculture va lancer des grandes enquêtes sur la question de la dégradation des sols. Et on peut lire, par exemple, dans leur journal, que l'usure des sols, les pertes d'humus caractérisent les pays puissamment motorisés. Donc, en fait, c'est l'ensemble des transformations qui sont induites par la motorisation qui inquiètent alors les experts agricoles de l'époque. Dans un autre journal qui s'appelle L'agriculture pratique, on peut lire que les systèmes agricoles insuffisamment diversifiés, les labours mécaniques répétés et la raréfaction des animaux de travail résultant de l'emploi des tracteurs précipitent cet appauvrissement des sols. Donc en fait, il y a une claire conscience que la motorisation va entraîner une simplification des systèmes de culture et on craint aussi l'abandon du fumier et de la complémentarité entre agriculture et élevage, donc la spécialisation qui se dessine entre des régions de grande culture et des régions d'élevage. Par exemple, pour la Chambre d'agriculture de Seine-et-Oise, en répondant à une de ses enquêtes, elle rapporte que l'on se demande si ceux qui cultivent sans fumier courent à leur perte. Et elle appelle à conserver des chevaux dans les exploitations. Et on a encore, on a une autre crainte qui est celle de l'approfondissement des labours qui accompagnent le passage à la traction motorisée. À la fois l'approfondissement de la profondeur et de la vitesse des labours qui se met en place à ce moment-là. Et donc, on retrouve toutes ces craintes dans une diversité de segments de la profession agricole des années 50, chez des experts et par exemple dans des instances comme l'Académie d'agriculture. On s'inquiète de la perte d'autonomie des fermes, d'un point de vue tant biologique qu'économique.
Avec, malgré tout, et on l'entend bien, hein, une idée portée et par une forme... on dirait de propagande, si on voulait utiliser un mot qui est aujourd'hui perçu de manière très négative, ou de grandes réclames et de publicité par l'État, de mécanisation, il faut mécaniser. Mais au plus près des gens, Véronique Lucas, dans ces CUMA, dans ces coopératives d'utilisation de matériel agricole, les gens vivent cela comme un progrès? Parce qu'est-ce que ça semble aberrant, peut-être dans les années 1950-60, de ne pas avoir de tracteur?
Ben, en fait, pour, effectivement, comme l'ont dit mes collègues, ils font des calculs, ils le regardent. Donc, effectivement, certains investissent dans d'autres tracteurs et d'autres pas, ou vont le faire beaucoup plus tardivement. Et voilà, les agriculteurs réfléchissent et finalement, ils ont aussi des manières paysannes de considérer ce progrès et de l'adapter à leur situation. Et d'ailleurs, on le voit bien, finalement, les CUMA, d'abord, elles vont prospérer parce qu'avec le plan Marshall, il y a l'importation de tracteurs américains, mais en nombre limité. Donc Tanguy Préjean choisit du coup de réserver l'exclusivité des tracteurs aux CUMA. Et donc, on a jusqu'à 12 000 créations de CUMA dans les années 47, 48, 49, parce que c'est la seule manière d'avoir un tracteur. Sauf que, en fait, beaucoup de ces CUMA ont été créés par des gens qui ont fait signer à plusieurs personnes la fiche de création d'une CUMA et qui ont utilisé leur tracteur à leur propre usage, sans dire qu'en fait, les autres auraient pu y avoir accès. Donc, en fait, dès que ces tracteurs vont arriver en plus grand nombre, que cette exclusivité va tomber, le nombre de CUMA s'effondre. Et donc, on voit une étude de 1952 qui dit qu'il y a déjà plus que 6000 CUMA. Donc, en fait, ça a été plutôt un soufflet qui est retombé très vite. Et après, ce qu'on voit, c'est finalement un essor difficile des CUMA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a d'autres manières de s'organiser collectivement pour accéder aux machines. Donc, il y a par exemple une étude très intéressante d'une anthropologue américaine en Aveyron dans les années 75-76, où elle met en évidence qu'effectivement, le tracteur est arrivé, mais une partie d'entre eux sont achetés à plusieurs exploitations ensemble, en copropriété, qu'ils n'ont pas créé de CUMA, mais qu'ils ont plutôt, certains, ils se sont partagés entre plusieurs exploitations. Certains ont investi dans un type d'équipement, une autre dans une autre machine, et on s'échange, on réunit les matériels ensemble au moment de grands travaux. Donc en fait, il y a aussi des manières paysannes d'adapter la mécanisation aux réalités de chaque exploitation, et ces formes plutôt informelles de coopération, c'est plutôt celles-là qui vont prendre le pas, et ce n'est que plus tard qu'on va avoir un boom durable des CUMA, quand les conditions seront plus favorables, parce que on a des politiques publiques qui, après le départ de Tanguy Préjean, vont être beaucoup plus centrées sur l'exploitation, donc donner davantage des avantages économiques à l'exploitation plutôt que au CUMA. Et ben les agriculteurs, ils vont s'y adapter. Du coup, ils vont investir individuellement, mais ils vont partager quand même ces machines acquises individuellement.
Avec ces coopératives qui existent toujours, hein, oui. C'est important de le dire. C'est quand ce moment où, après l'effervescence du début, un ralentissement ensuite, le moment où les CUMA ont vraiment le vent en poupe?
Eh ben, en fait, on a de 6000 en 51, on compte 7000 en 1977, 14000 au début des années 90. Donc, c'est vraiment les années 80 qui sont la décennie de ce boom. Et notamment, c'est suite au choc pétrolier qu'il y a des conditions économiques qui vont être plus favorables et plus d'autres facteurs qui vont s'y rajouter.
Fonctionnement d'une CUMA.
Bon, la CUMA, c'est une association où chacun a, pour acheter du matériel, a versé des parts correspondantes aux prévisions qu'il ferait du matériel à acheter. Et puis, par l'intermédiaire du Crédit Agricole, nous avons obtenu des fonds, 70% je crois, de la valeur du matériel qui n'était prêté par le Crédit Agricole pour financer celui-ci. Nous avons des remboursements, c'est bien déterminé chaque année à faire. Il faut donc diviser le montant du remboursement par le nombre d'heures de travail effectif de chacun. En fin d'année, nous comptabilisons. Nous avons donc le total des heures reçues données. Et puis, chacun, enfin, c'est une convenance que nous avons entre nous, s'engage par avance à rendre le temps qu'il a perçu en trop au camarade qui, lui, en somme, est créancier des heures de travail du groupe. Ça se fait, bon, sous n'importe quelle forme, mais jamais en espèce. C'est toujours en nature.
Et oui, avec le petit chant du coq derrière. Nous étions en 1971 avec un agriculteur de la Sarthe qui explique le fonctionnement d'une CUMA. Les CUMA sont les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Dites-nous, Christophe Bonneuil, on le sent bien, hein, qu'il y a ce mouvement après la Seconde Guerre mondiale, l'accélération avec le plan Marshall, hein, l'aide venue des États-Unis, tous ces tracteurs qui arrivent et qui vont pas à tout le monde, hein, qui vont principalement, je l'entends, au CUMA et à l'intérieur des CUMA, sans doute à celui qui a déjà suffisamment de fortune. Est-ce que la mécanisation intensifie le regroupement des parcelles au sens où on va avoir de plus en plus grosses exploitations avec des gens qui s'imposent de plus en plus, qui vont laisser à l'écart les petites exploitations qui, elles, vont peut-être conserver un cheval de temps en temps pour labourer ?
Oui, en tout cas, il y a un lien entre les politiques de remembrement pour avoir des parcelles plus grandes et les adapter à l'usage de tracteurs qui vont, à partir de la fin des années 50, devenir de plus en plus gros. Puisque, au contraire, au début des années 50, c'est le petit tracteur de 20, 23, 25 chevaux qui prend le pas sur des plus gros tracteurs qui étaient des tracteurs Renault à chenilles de 35 chevaux, etc. Donc, il y a un moment de diminution de la puissance entre 48 et 50-58 et de réaugmentation depuis les années 60 de la puissance des tracteurs pour des parcelles et des exploitations de plus en plus grosses. Mais j'avais peut-être envie de revenir sur votre question initiale et ce qu'ont dit mes collègues sur l'engouement. Parce que c'est souvent sous ce prisme-là qu'on a fait l'histoire de la motorisation. Les jeunes agriculteurs qui embrassent la modernité, qui parfois se fâchent avec leur père, qui ne veut pas acheter de tracteur et le jeune veut. On a raconté comme ça sous l'angle d'une guerre des générations et d'une conversion des jeunes agriculteurs qui embrassent la modernité, qui donc le CNJA, Cercle National puis Centre National des Jeunes Agriculteurs. Un des dirigeants du CNJA, c'est René Colson, qui en 1950 écrit un livre tout à fait en faveur de la motorisation.
Je me suis trompé dans le prénom.
Non, il est décédé avant.
Alors, c'était qui ?
Le livre sort en 1950, en tout cas. Il est juste décédé à ce moment-là.
Et du coup, il n'a pas participé à la... Parce qu'en fait, il décède au moment où de la...
Oui, mais il a écrit ce livre sur la motorisation agricole.
Il n'est pas dans les fondateurs du CNJA.
Pardon ?
Il n'est pas dans les fondateurs du CNJA.
Oui, il fait partie de la JAC, effectivement, qui sont les jeunesses agricoles catholiques. Mais il incarne ces jeunes agriculteurs modernistes. Ce récit du tracteur comme conversion des jeunes est tout à fait typique de la façon dont on a fait l'histoire de la modernisation agricole. En gros, entre la rencontre de jeunes qui veulent se moderniser par en bas, et puis des technocrates de l'État, les planistes, René Dumont, qui justement préface ce livre de Colson, le plan Monnet de 46 qui met la moitié des investissements pour l'agriculture sur le tracteur et le machinisme. Et donc, ça serait à la rencontre de ces deux groupes sociaux, des jeunes agriculteurs et des élites agronomiques et planistes de l'État, que tout le processus se serait enclenché. Dans cette histoire, on oublie un troisième type d'acteurs qui sont les acteurs industriels. Il y a des acteurs du pétrole, il y a des acteurs de la construction de machines qui ont également un intérêt, des stratégies qu'il faut aussi étudier. Et si on se pose la question de ce côté-là, finalement, c'est quoi l'agriculture pour ces acteurs-là et comment ils essayent de peser sur les orientations que vont prendre la modernisation agricole? C'est une autre question que de partir du récit de la conversion, l'adhésion à la modernité, le degré de résistance ou pas, etc. Et on regarde d'autres types d'acteurs et du coup on passe d'une perspective d'histoire de la motorisation à une histoire de la pétrolisation. Comment la France agricole rentre dans un nouveau monde, un nouveau cycle des éléments biogéochimiques, un nouveau régime énergétique, parce que finalement l'agriculture, elle a pour fonction initiale de capturer l'énergie du soleil pour la transformer en énergie alimentaire. Et là, on va avoir un modèle complètement différent où il faut mettre beaucoup d'énergie fossile pour produire des calories alimentaires. En 1973, la France est le deuxième exportateur agricole mondial. Il y a une balance nette d'exportation de biomasse, c'est-à-dire le bois, les produits agricoles, de plus de 9 millions de tonnes. Mais pour faire ça, il faut importer 4 millions de tonnes de pétrole qui vont vers les usages agricoles. Et donc voilà, c'est aussi intéressant de regarder ce processus-là en regardant les jeux d'acteurs industriels. Parce que finalement, dans l'histoire de la modernisation agricole, il y a un troisième groupe d'acteurs qu'on n'avait pas beaucoup étudié. Et par exemple, un des grands moments de cette conversion des jeunes, de l'engouement pour le tracteur, c'est les concours de labour, les championnats. Il y a un championnat national chaque année à partir de 1953, avec un champion de France qui participe ensuite à un championnat international. Il se trouve que ce modèle du championnat dans les cantons, dans les départements et puis ensuite au niveau national et international est lancé par Esso, la marque Exxon, marque internationale qui démarre ça en Irlande, au Canada et qui va proposer aux jeunes agriculteurs de créer ce concours en France. Le premier concours en France, je ne sais plus si c'est en 53 ou 54. Et ces moments de concours agricoles sont des moments par lesquels l'industrie du pétrole influence les positions, les orientations, les visions du monde de ces jeunes agriculteurs. C'est un endroit où c'est souvent le président de la République qui vient remettre le trophée aux champions. Et puis vous avez les industriels qui sont là. Et c'est un endroit où ces trois mondes, justement, les technocrates modernisateurs, les jeunes agriculteurs et les industriels, se retrouvent. Et on oublie souvent ces acteurs industriels, on oublie qu'il y a des centaines d'ingénieurs et technico-commerciaux qui sillonnent les campagnes dans les années 50 pour vendre des produits industriels, des engrais, des pesticides, des tracteurs aux agriculteurs. Et donc, c'est important de compléter notre regard par ce troisième groupe d'acteurs.
Céline Piessis.
Oui, et c'est aussi un propos plus général de l'ouvrage qu'on a voulu porter avec les co-directeurs de l'ouvrage, que je rappelle, hein, Sarah Angelia-Guiton, Sylvain Brunier, Baptiste Cotras, moi-même et Samuel Pinault.
Comment les machines ont pris la terre, enquête sur la mécanisation de l'agriculture et ses conséquences.
De proposer d'élargir cette palette des acteurs de la mécanisation en incluant les pétroliers, comme le rappelle Christophe Bonneuil, et aussi les industriels de la machine agricole. Et il faut citer les travaux d'une enquête collective qui a été menée sur le sujet et des collègues Samuel Pinault et Sylvain Brunier qui travaillent particulièrement sur le rôle des industriels de la machine, des acteurs marchands et des concessionnaires pour organiser un cycle de rotation rapide des machines, parce que pour favoriser l'achat de neuf, il faut notamment organiser le secteur de l'occasion et le déversement des machines des régions de grande culture avec un machinisme très spécialisé, très coûteux, vers des régions intermédiaires où persistent plus longuement des pratiques de polyculture élevage. Et donc ce travail de rotation du cycle des machines est très important, notamment avec le travail de reprise des machines, donc de rachat du matériel usagé pour le revendre à d'autres secteurs.
Véronique Lucas, il y a des récits pluriels ici, nous l'entendons. Et moi je suis très sensible que vous mettiez en avant ce récit au plus près des gens, c'est-à-dire la manière de vivre ces cumas, vivre ce que c'est que d'avoir un tracteur, en parallèle de ces discours qui sont portés par les autorités, hein, on l'entend bien. Et ces discours-là sont parfois contradictoires, mais ça doit être difficile aussi d'être agriculteur, agricultrice dans les années 1960 et de se dire, ben, est-ce que c'est si bien que ça d'avoir un tracteur ? Oui, ça ne peut être que bien.
Oui, tout à fait. Des gens, mes propres parents, quand ils parlent de donc qui ont été agriculteurs, de l'arrivée du tracteur sur la ferme de leurs parents, je leur demande, bah alors qu'est-ce qui a fait que c'était à la mode, ok. Mais plus, non, c'est vrai qu'on venait de reprendre des terres et donc là, ça devenait rentable d'investir dans une machine. Donc en fait, on voit bien que oui, il y a ces grands discours et ces efforts qui ont été déployés et aussi pas seulement dans l'agriculture, mais dans les secteurs. Et puis, il y a tout un nuancier de réponses des agriculteurs selon leurs nécessités, leurs besoins et les opportunités qui se présentent. Et c'est intéressant de voir effectivement aussi toutes les astuces et trucs qu'on met en place pour aussi continuer à être, avoir des marges d'autonomie dans les choix qu'on fait.
C'était où la ferme ?
En Bretagne.
De quel côté ? Parce qu'en Bretagne, on n'a pas le droit de dire en Bretagne, parce que tous les Bretons disent « Mais où alors en Bretagne ?»
Dans le sud-est morbihanais, dans le pays de Questembert.
Céline Pessis.
Et en termes de travail, c'est sûr que le machinisme a vraiment allégé le travail physique, mais ce qu'on essaye de montrer aussi dans l'ouvrage, c'est qu'il a créé de nouvelles astreintes, de nouveaux troubles musculaires, et surtout qu'il n'a pas réduit le temps de travail, mais qu'il l'a déplacé. Donc en fait, on travaille autant, mais on fait des nouvelles choses. Et il a aussi approfondi la division du travail. Donc on l'a dit, la division entre régions, avec des spécialisations très poussées pour réaliser des économies d'échelle, et la division à l'échelle des filières. Donc, il a accru la spécialisation du travail, la spécialisation verticale du travail, donc avec aussi une captation de la plus-value par les industries de l'amont et de l'aval, par exemple des entreprises de transformation. Et puis, il a aussi transformé la division genrée du travail. C'est-à-dire que la mécanisation, elle a ciblé prioritairement des activités masculines, notamment le labour, la récolte, des activités liées aux grandes cultures, et dans un second temps seulement, les activités liées à l'élevage, comme la traite, l'alimentation ou le soin des animaux, qui étaient plus traditionnellement dévolues aux femmes. Et par là, en fait, ça a aussi renforcé la valeur économique des tâches masculines et minoré le revenu dégagé par les femmes. Et pour les femmes, elles sont de plus en plus assignées à des tâches de bouche-trou. Leur travail vient se loger dans les interstices de la mécanisation. Et parfois, paradoxalement, ça peut même accroître la pénibilité du travail pour elles qui se retrouvent, on va dire, porteuses de seau. Et d'autant plus que les machines ne sont pas toujours adaptées à leur morphologie, qu'elles ne sont pas conçues pour elles, et que ça peut aussi générer des formes de dangerosité.
Oui, parce que quand on imagine, je ne sais pas moi, les tableaux du 19e siècle, Angelus de Millet, on voit, ils sont deux, un homme, une femme dans les champs. Quand on imagine l'agriculteur dans son champ dans les années 1950-60, c'est un homme sur une grosse machine. C'est comme ça qu'on se le représente. Avec, dans cette histoire-là, tant et tant d'acteurs, et c'est bien de les rappeler pour montrer comment se construit cette histoire de la mécanisation. Et parmi tous ces acteurs, il y a le banquier.
Au Crédit Agricole, on a pour le matériel, on a 5 ans, un prêt à 3%. Pour, en général, on a un autre matériel aussi, c'est le semoir, 5 ans à 5%. Mais autrement, c'est 8 ans à 5,25 et puis 13 ans à 2%.
Et ces investissements, ces dettes que vous avez en quelque sorte?
Oui.
Ça vous inquiète, vous?
Oh oui, c'est sûr, parce que on sait que dès qu'il y a un nouvel investissement, eh bien, automatiquement, il faudra se priver. Pour pouvoir rembourser, il faut quand même prévoir, il faut avoir aussi une réserve. C'est bien joli, on dit comme ça, on remboursera toujours, mais vu qu'il n'y a pas de planification dans la politique agricole actuelle, on ne sait jamais où, très bien où l'on va.
Ça veut dire que vous ne savez pas quel produit on vous demandera de faire dans quelques années?
Non, parce qu'on change, la politique agricole change souvent de circuit, quoi. Tout d'un coup, on va vous dire, faites, produisez de la viande, et puis après, on dira, non, faut faire du lait. Mais alors, on ne demandera pas aux gens quelle somme de capitaux il faudra réinvestir ailleurs, alors qu'on aura déjà investi.
Ah bah oui, parce que si on a tué les vaches pour faire la viande, c'est dur de faire du lait. C'était Madame Potiron, agricultrice, endettée, en Loire-Atlantique, en 1970. Christophe Bonneuil, nous sentons ici, par cette témoignage, enfin, en 1970, quand Madame Potiron parle, elle est perdue, hein. elle sait pas où elle est. Elle sent qu'il y a des demandes qui, d'ailleurs, ne sont pas verbalisées en disant c'est telle personne qui me demande, on sait pas trop. Et on a ici tout un monde agricole qui, avec la mécanisation, semble complètement adaptable par les autorités, alors que dans la réalité, au plus proche des gens, c'est pas comme ça que ça se passe.
Oui, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé à l'agriculture de s'industrialiser, de produire plus, pour moins cher, pour nourrir les urbains, avec moins d'actifs. Mais cette industrialisation ne s'est pas faite sur le modèle de grandes exploitations détenues par des acteurs industriels, avec des sociétés par action ou des choses comme ça. On a laissé la petite exploitation familiale, qui devient moyenne exploitation familiale, en se modernisant, en achetant des tracteurs, prendre tous les risques. Donc on a à la fois une insertion très forte dans le capitalisme industriel, on achète tous les facteurs de production, les semences, les engrais, la traction, les aliments animaux au marché. Il n'y a plus un système un peu autarcique de la ferme. Donc l'agriculture est profondément intégrée à l'économie industrielle, mais ce sont les exploitations qui prennent tous les risques, qui se retrouvent confrontées aux variations des prix, aux variations du climat, aux aléas météorologiques. Et donc effectivement, ça retombe sur la tête de ces agricultrices et de ces agriculteurs. Et quand va arriver la crise, le choc pétrolier de 73, et que le prix du pétrole, des engrais vont exploser, les personnes qui s'étaient endettées, qui s'étaient équipées, qui s'étaient modernisées, vont se retrouver dans le rouge. Et va arriver la sécheresse de 76, on va avoir un moment extrêmement tendu dans les années 70 pour ces exploitations.
Céline Pessis, je reprends le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Christophe Bonneuil, hein, une autre histoire des 30 glorieuses. Ces 30 glorieuses vraiment ont été mises en exergue et nous l'avons tous et tout appris dans les manuels scolaires, cette période de 30 années après la Seconde Guerre mondiale et qui prendrait fin avec le choc pétrolier. Cette autre histoire des 30 glorieuses, ça permet déjà de dire que pendant ces 30 années-là, il y avait tous les indices pour montrer les limites de cette proposition avec la mécanisation et avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui le progrès. Il faut mettre en avant le progrès.
Oui, tout à fait. Et pour reprendre sur ce verrouillage des exploitations agricoles et des modèles techniques qui est généré par ce mouvement de motorisation, et pour revenir sur cette question de l'endettement, il me semble que c'est un point absolument clé, puisque c'est par l'endettement aussi que les agriculteurs vont être de plus en plus tenus, comme on le voyait dans cette soumission à ces nouveaux prescripteurs que sont les banquiers, vont être de plus en plus tenus à emprunter des itinéraires techniques prédéfinis. Et c'est aussi un usage accru des pesticides, finalement, qui va être induit, puisque ces pesticides sont de plus en plus conçus comme des assurances récoltes pour des agriculteurs très contraints financièrement. Et donc, un des objectifs de cet ouvrage, « Comment les machines ont pris la terre », c'était justement... en montrant que l'histoire du machinisme agricole est étroitement liée à celle de l'intensification des modes de production, c'était d'éclairer cette diversité de formes de verrouillage socio-technique qui enserrent les agriculteurs et qui finalement contraignent leurs choix, mais qui aussi sont à l'origine de l'augmentation de leur empreinte environnementale, de la faible maîtrise qu'ils ont sur leur outil de travail. Et finalement, tout ça, ça décourage d'éventuelles velléités de bifurcation. Et il faut quand même rappeler le projet originel de cet ouvrage. C'est un travail collectif qui a été mené par un collectif de chercheurs et de chercheuses en collaboration avec l'Atelier Paysan, qui est une société coopérative donc qui accompagne les agriculteurs et les agricultrices dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments qui soient plus adaptés à une agroécologie paysanne. Et qui plaide donc pour une souveraineté technologique des agriculteurs, qui est tournée plus vers l'autonomie des fermes et l'appropriation des outils.
Et que les agriculteurs et agricultrices puissent vivre, Véronique Lucas.
Et d'ailleurs, du coup, c'est effectivement ces situations d'endettement croissante qui va expliquer que finalement les CUMA vont se développer dans la décennie des années 80, ensuite au choc pétrolier. Donc les agriculteurs sont à la recherche de rationaliser leurs coûts. Et d'autant plus que sur cette question de l'endettement, cela faisait plusieurs années que la Fédération nationale des CUMA, donc qui avait été créée dès 1945, demandait ce qu'on appelle des crédits bonifiés. Comme pouvaient avoir les exploitations, donc des possibilités d'emprunter à des taux réduits. Et c'est finalement l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 qui va faire que cette politique de crédit super bonifié va être accessible au CUMA. Et dans ce contexte économique contraint, on va passer donc de 7 000 à 14 000 CUMA en un peu plus de 12 ans, aussi parce qu'un réseau fédératif de fédération de CUMA de proximité s'est créée et qui est en capacité d'accompagner les agricultrices et les agriculteurs qui choisissent de s'organiser en CUMA et qui vont convertir leur ancien groupe de copropriété, leur ancien groupe d'entraide en CUMA pour pouvoir du coup contenir ces coûts et arriver à faire face à ces conséquences économiques de la mécanisation.
Les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, participent donc de la mécanisation, on l'entend bien, mais dans le même temps, elles offrent une forme de réponse aussi à ces limites. Et on en a évoqué beaucoup, mais notamment l'endettement. Donc c'est à la fois participer et soutien à la mécanisation. Mmh. Avec, dans tous les processus que nous évoquons ici, nous l'entendons bien, il y a de l'endettement, il y a des conséquences environnementales, avec le remembrement, ça c'est une première chose, ça n'a pas de conséquences environnementales. Le remembrement, c'est l'arrachage des haies qui va être la conséquence environnementale, l'utilisation de pesticides et puis l'élevage intensif.
C'est la première fois qu'est installée une porcherie automatique de ce type en France?
C'est la première porcherie automatique implantée en France sous licence américaine.
Et comment fonctionne-t-elle?
Elle fonctionne automatiquement. À l'entrée de la porcherie, vous avez deux silos à aliments, un silo qui distribue pour les petits porcs et un silo pour les gros porcs.
Et elle est climatisée?
C'est climatisé intérieurement par des plaques de polystyrène et par des ventilateurs d'extraction d'air.
Et l'alimentation se fait en deux temps?
Elle se fait en deux temps. Une alimentation pour les petits porcs qui se fait dans des augettes et une alimentation pour les plus gros porcs qui se fait par des balancelles et l'alimentation se faisant au sol, sur un sol isolé par un revêtement spécial de polyester.
Bon, vous avez justement des installations au sol qui permettent un nettoyage très facile.
Oui, vous avez des grilles d'éjection qui sont formées par des canaux latéraux et reliées par des gaines de ventilation.
Et combien d'années vous faut-il pour élever un porc?
Oh, il ne nous faut pas une année pour élever un porc. Nous comptons 4 mois pour élever un porc qui est entré en porcherie de 25 à 30 kilos et pour en sortir à 100 à 110 kilos. Alors, nous pensons, dans cette porcherie, faire 3 cycles de 400 porcs par an.
C'est-à-dire 1200 porcs.
1200 porcs par an.
1200 porcs par an, oui.
C'est très intéressant. Croyez-vous que cette nouvelle formule d'élevage va convaincre les éleveurs traditionnels?
Mais j'en suis persuadé.
Alors, il y a donc des petits porcs et des gros porcs dans cette porcherie automatique en 1964. Véronique Lucas, ici, avec l'intensification de la production. Mais c'est industriel, nous l'entendons bien. Nous sommes à la croisée de tous ces questionnements. Il y a de l'endettement parce que faut mettre en place une telle usine. Faut également penser aux conséquences environnementales et nous les connaissons tant parce qu'il y a tous ces rejets. Mais ici, l'organisation des gens, elle a sa place autour de la mise en place d'une porcherie aussi intensive que celle-ci.
Mmh. Tout à fait. Donc ça, c'est des exemples. Il y a aussi d'autres stratégies qui sont choisies. Notamment, Céline parlait juste des femmes, en fait, de comment aussi il y a eu une division genrée du travail. Pensons par exemple au sud-ouest où il y avait une tradition d'élevage de canards, de volailles de plein air, avec une transformation fermière vendue en vente directe dans les bourgs ruraux et les villes. Des femmes vont chercher à maintenir ces activités-là, puisqu'elles leur apportent aussi une autonomie dans le ménage par l'argent de la vente directe de leurs produits sur les marchés. Mais dans les années 80, elles vont être contraintes par l'arrivée des nouvelles normes d'hygiène où on cherche à imposer aux exploitations agricoles les mêmes normes d'hygiène que dans les entreprises agroalimentaires industrielles. Et c'est comme ça que certaines vont se retrouver à créer des CUMA pour investir ensemble dans un abattoir de découpe de volailles et pouvoir continuer cette forme d'élevage traditionnel qu'elles avaient maintenue. Et en fait, ces catégories d'agriculteurs et d'agricultrices qui cherchent à maintenir des activités menacées par la modernisation vont être aussi les premières catégories d'agriculteurs et d'agricultrices à s'engager dans des manières de produire dont on va reconnaître l'intérêt écologique et qui vont trouver un débouché dans l'agriculture biologique ou d'autres formes de signes de qualité. Donc, en fait, les CUMA aussi, en permettant à des systèmes de se maintenir malgré les conditions adverses de la modernisation, d'être finalement aussi, vont paver la voie à des formes de développement d'agriculture plus écologique ensuite.
Christophe Bonneuil.
Oui, bah, ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est aussi que ça nous rappelle que, à côté de la motorisation, il y a toute la question des bâtiments qui représentent également des investissements importants pour ces exploitations qui se modernisent et que dans ces bâtiments, on va voir des matériaux modernes typiques des Trente Glorieuses. On va avoir des planches de panneaux agglomérés. Je me souviens que mes grands-parents étaient petits agriculteurs dans les Landes. Ils se mettent au poulet dans les années 70. Ben, c'est des planches de panneaux agglomérés pour construire les cabanes à poulet. On n'est pas loin du poulet de Saint-Sevé. C'est l'amiante. Le fibre au ciment pour le toit, c'est là il était question de polystyrène. Voilà, c'est que finalement à travers les bâtiments, les matériaux dits modernes dont on connaît les problèmes environnementaux aujourd'hui ont pénétré les campagnes dans ces élevages intensifiés.
La terre face aux machines, une histoire environnementale dans le cours de l'histoire sur France Culture avec une place réservée sur cette série environnementale à celles et ceux qui pensent aussi le risque écologique. Céline Pessis, Survivre et vivre. Nous y croisons un mathématicien, ça c'est un ouvrage qui ressort en poche, objecteur de recherche et révolution écologique. Il ressort peut-être même pas en poche, il ressort en livre. qui est ce personnage ?
Oh, Alexandre Crotoni, c'était un mathématicien donc qui avait a priori peu à voir avec le secteur agricole, mais qui va effectivement s'ouvrir à l'écologie politique brutalement au début des années 70 et qui va s'intéresser notamment à l'agriculture biologique, qui est une agriculture respectueuse de la vie des sols et porteuse d'un autre type de machinisme, donc qui ne va pas retourner les couches superficielles du sol, des choses qui vont passionner Alexandre Grothendieck, et l'agriculture biologique connaît au début des années 70 un certain élargissement, puisqu'elle est née plutôt des années 50, 60, et qu'elle est justement héritière de tous ces débats autour de la motorisation et de ces alertes sur la dégradation des sols, avec des associations comme l'Association pour la fertilité vivante des sols, qui est créée par des membres de l'Académie d'agriculture. Et au début des années 70, on a aussi des gens beaucoup plus éloignés du monde agricole qui vont s'y intéresser avec la cristallisation d'alertes sanitaires et un renouveau de ces alertes sur l'érosion des sols qui traversent une bonne partie de la France. Hein, c'est des choses qu'on retrouve dans les propos des agronomes de l'époque qui pointent donc un des premiers effets de cette motorisation. On en tire les leçons au début des années 70 en termes d'endettement et en termes d'une première baisse de la matière organique des sols, ce qui va en fait générer à nouveau un approfondissement des labours, donc un cercle vicieux que dénoncent les premiers écologistes.
Avec un personnage incroyable, hein, Alexandre Grothendieck, médaille Fields de mathématiques en 1966, et puis qui décide de tout abandonner, qui est une sorte d'ermite comme ça du côté des Pyrénées et qui réfléchit à l'agriculture. Merci vivement à vous trois de nous avoir éclairés, et nous sommes bien conscients qu'il ne s'agit pas ici de dénoncer des pratiques du passé au sens que oh là là, il aurait fallu faire autrement. C'est pas ça, c'est aussi surtout apporter des réponses à aujourd'hui. C'est vraiment cela, moi, que j'entends dans cette démarche-là, parce que tout était déjà présent dans les réflexions face à la mécanisation, à la motorisation, et je rajoute la pétrolisation, selon vos propos, Christophe Bonneuil. Comment les machines ont pris la terre ? Enquête sur la mécanisation de l'agriculture et ses conséquences. C'est aux éditions de l'ENS. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans le cours de l'histoire.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, la nature coulée dans le béton, une histoire bien armée.
Un béton est un matériau composé d'un mélange de pierre, de sable, d'un liant hydraulique, c'est-à-dire de ciment ou de chaux, et d'eau. Le mélange de sable et de liant hydraulique constitue un mortier. Le béton est donc aussi un mélange de mortier et de pierre.
Tout cela fait beaucoup de qualité.
Laisse béton.
Le béton demain dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois, la technique Ludovic Auger, émission préparée par Jeanne Delecroix, Luce Mourant, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayou Ndiziou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.